laisser passer.
Ah oui, vous pouvez passer.
Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Michel Mietton. Vous êtes membre de
bonjour.
La... oui, je vais vous laisser le temps de dire bonjour quand même. Vous êtes membre de l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, une association que nous avons eu plusieurs fois l'occasion de présenter à nos auditeurs et auditrices sur Radio d'ici, mais sur Ici l'Ombre peut-être un peu moins. Vous rentrez tout juste de Palestine, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre implication dans le groupe de travail de l'association France-Palestine Solidarité sur les prisonniers et prisonnières palestiniennes et palestiniens. Vous suggérez 3 temps dans le processus d'incarcération dans les prisons israéliennes, mais avant de les aborder, est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation de la situation en Palestine aujourd'hui pour les prisonniers et prisonnières?
Oui, alors cette situation n'est pas très bonne. Hein. Je vais citer dans un instant le nombre de l'effectif de prisonniers palestiniens et de palestiniennes aussi. Donc les choses sont peut-être moins pires qu'elles ont pu l'être dans un passé, y compris récent. Mais enfin, le problème demeure d'une parodie de justice, d'un dédale carcéral israélien que je me propose d'exposer dans un instant. Quoi, les choses sont inchangées, même si l'on a changé de premier ministre il y a peu de temps israélien, la situation est toujours aussi dure, très dure pour les prisonniers politiques.
Plus dur que dans d'autres prisons, d'autres pays, alors vous pensez où?
Voilà,
enfin,
alors,
on va pas te faire de concurrence. Hein, mais...
Oui, alors ça c'est une chose que je voulais signaler d'emblée, hein, c'est-à-dire que pourquoi en quelque sorte parler des prisonniers palestiniens, hein, l'enfermement c'est une douleur partout dans le monde. Il n'y a qu'à voir le nombre de suicides dans les prisons françaises, par exemple. Hein, on a un triste record de ce point de vue. Donc, pourquoi parler des prisonniers en Palestine? Parce qu'il y a une spécificité qu'on peut décliner de différentes manières. Hein. D'abord, je répète, ce sont des prisonniers politiques, hein, ce ne sont pas des droits communs. La deuxième chose, c'est qu'il y a un effectif qui est considérable, puisque... aux dernières données qui sont des données qui sont fournies par les autorités israéliennes, hein, qui sont incontestables et que l'on peut retrouver sur un site, je le dis pour les auditeurs, qui s'appelle Military Court Watch. Les données les plus récentes remontent à mars dernier. Il y a 4104 prisonniers. Alors, il est évident qu'en termes absolus, cet effectif est probablement largement dépassé dans des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran. Mais rapporté à la population du pays, il est hautement probable que Israël se retrouve dans les tout premiers rangs. Hein, on peut calculer ça, rapporté les 4000 que je viens de citer, rapporté aux 9 millions d'habitants, on est de à peu près à 1,3 pour 1000. Donc c'est considérable rapporté à cet effectif de population. La troisième chose qui fait que c'est spécifique et qu'il est légitime d'aborder ce sujet, c'est qu'on a parmi les prisonniers politiques des femmes, et des enfants, hein, sur le sort desquels je reviendrai dans un instant, si vous voulez bien. Et puis le quatrième point qui fait aussi qu'il me paraît tout à fait normal d'aborder cette question, c'est que la durée des peines rapportée au motif d'inculpation, cette durée des peines est souvent ahurissante, quoi. Donc je crois nécessaire de devoir dire ça à nos auditeurs parce qu'il ne manque pas de sujets que nous pourrions aborder. Mais celui-ci, je crois, me paraît tout à fait légitime, encore une fois, au vu de ce que je viens de signaler.
D'accord. Et du coup, vous décliniez 3 temps dans le processus de répression et d'inculpation, enfin d'incarcération. Le temps justement de l'inculpation avec une justice aléatoire, on va dire. le temps de l'incarcération qui comporte des contraintes spécifiques à Israël et à cette incarcération politique, hein, et puis peut-être la réinsertion pour ceux qui peuvent, pour ceux qui n'ont pas trouvé la mort dans les prisons israéliennes. J'ai résumé un petit peu ces trois temps. On va les reprendre les uns après les autres. D'abord, le temps de l'inculpation. Comment ça se passe ?
Alors, oui, effectivement, j'ai souhaité suivre ce plan-là, qui est en quelque sorte un plan chronologique. Hein.
Pour qu'on comprenne le processus.
Voilà, il me semble. Le premier temps, c'est celui que je pourrais appeler celui des procédures. Hein. Alors, ces procédures, d'abord, il faut que nos auditeurs sachent bien que en Israël, ce sont des procédures militaires. Hein, ce sont des tribunaux et des cours d'appel composés de militaires israéliens qui jugent les Palestiniens.
C'est donc une justice militaire, oui.
Voilà. Alors, ça me paraît très, très important à souligner d'emblée. Hein, en effet, au terme d'une proclamation militaire de juin 67, peu importe le numéro, l'autorité légale sur les TPO, sur les territoires palestiniens occupés, est exercée par un commandement militaire israélien. Donc, procédure militaire, d'ailleurs ce régime, on peut le dire rapidement, est un régime d'incarcération, de détention qui est hérité d'ordres militaires qui remontent au temps du mandat britannique. Alors les mandats britanniques ont laissé ça en héritage et les Israéliens s'en sont saisis. Alors ces procédures militaires, elles sont de trois types. La première procédure, dont certains ont probablement entendu parler, c'est ce qu'on appelle la détention administrative. Alors, à propos de la détention administrative, je voudrais dire une citation d'un avocat israélien qui s'appelle Michael Sfard, dont je recommande la lecture de son dernier ouvrage qui s'appelle « Le mur et la porte ». Et, d'ailleurs, un titre joliment choisi. Cette référence est la suivante, hein, page 507, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre que ce n'est pas ma petite personne qui invente cela, mais Michael Sfard. Et Michael Sfard de nous dire, si quelque chose mérite l'appellation de kafkaïenne, c'est bien la détention administrative pour raison de sécurité. Kafkaïen, hein. Alors, en effet, pourquoi est-ce que c'est kafkaïen ? Eh bien, c'est parce que, après 6 mois, qui sont 6 mois légaux, si l'on veut, les prisonniers palestiniens ne font pas toujours l'objet d'un procès ou d'une remise en liberté. Une partie d'entre eux peut alors comparaître devant un juge militaire qui les place en détention administrative, pour une durée qui ne peut pas dépasser 6 mois, mais qui est indéfiniment renouvelable.
Oui, ça c'est quand même assez absurde.
Voilà, donc c'est l'absurdité ou le côté kafkaïen cité par Sfard.
Sans que le prisonnier puisse avoir accès à son dossier ou savoir pourquoi il est incarcéré. Souvent.
Voilà, le juge militaire ne notifie aucune charge au prisonnier. Et il n'entame donc aucun procès au cours duquel il pourrait se défendre. Donc c'est tout simplement
l'arbitraire.
Hein, c'est un peu les lettres de cachet de notre ancien régime.
Hein.
Alors, actuellement, entre 450 et 500 personnes sont victimes de ce système, et notamment, hein, on peut citer d'emblée le nom de notre compatriote, hein, franco-palestinien, Salah Hamouri, qui purge une nouvelle fois, hein, puisqu'il a déjà passé plusieurs années en prison, libéré momentanément, puis réincarcéré, et en ce moment, il est en détention administrative, sans d'ailleurs que la France, par ses autorités, ne semble s'en émouvoir beaucoup. Bon, laissons le cas de Salah Hamouri de côté. Il y a des gens qui ont eu des records d'enfermement au titre de la détention administrative, bien pire encore que notre compatriote, hein, je citerai un député lui-même, hein, qui a passé 11 ans, 7 mois en prison au cours de 6 internements distincts entre 1996 et 2013. Voilà, donc la première chose, c'est la détention administrative. 400 à 500 personnes qui sont à ce titre dans les geôles israéliennes. Alors, la deuxième procédure, si procédure il y a, véritablement, si un procès doit se dérouler, elle se déroule devant des juridictions militaires et sur une durée très variable, pouvant aller jusqu'à 3 ans. Alors, ces tribunaux militaires, ces cours d'appel militaires siègent au sein de quelques 25 prisons ou centres de détention. Alors, l'ONG israélienne, hein, je me plais à citer les Israéliens eux-mêmes pour montrer que c'est pas nous qui sommes proches de la cause palestinienne qui inventons les choses. Hein.
Oui, que l'ONG les faits sont là et les sources sont sûres. Quoi.
Voilà. L'ONG israélienne Yesh Din nous dit que les Palestiniens ne bénéficient jamais d'un procès équitable. Ils comparaissent la plupart du temps sans défenseur, y compris les adolescents. Et les procès se déroulent en hébreu à huis clos. Les représentants des services de sécurité témoignent systématiquement sous le sceau du secret. Les accusés et leurs éventuels défenseurs n'ont pas accès à leurs témoignages. Bon, donc c'est une parodie de justice et 95% des Palestiniens déférés, dans le cadre donc de cette procédure, hein, choisissent de plaider coupable pour obtenir des peines moins lourdes. Ça a été le cas en 2011 de Salah Hamouri, d'ailleurs.
Et vous disiez qu'il y avait des enfants aussi qui sont donc incarcérés,
voilà,
sous
cette appellation. Enfin, je vais revenir dans un instant
sur cette même procédure.
Sur le cas des enfants qui est évidemment particulièrement douloureux. Mais si je finis le troisième point sur les procédures, hein, j'ai dit différentes procédures, la détention administrative, bon, le procès, si procès il y a, procès entre guillemets, et puis troisième catégorie de prisonniers, en quelque sorte, qui est souvent oubliée d'ailleurs, qui sont des prisonniers qui sont arrêtés, qui sont conduits dans un centre d'interrogatoire, puis dans un centre de détention, en attendant de comparaître devant un juge militaire. Alors, dans ce cas, la comparution est constamment reportée, parfois durant des années, sans visite d'avocat ou de proche. Alors, ces détenus sont en détention, alors là, totalement arbitraire, et ils ne sont pas comptabilisés par les autorités israéliennes. Ils ne figurent pas dans les données fournies par ces autorités. Les Palestiniens parlent d'un millier de personnes ainsi embastillées. Alors, à propos, si je peux continuer, à propos des procédures, ce que je voudrais souligner maintenant, c'est qu'elles violent le droit international des droits humains et du droit humanitaire de la guerre. Alors, je verrai là 4 ou 5 points, si vous voulez bien. violation du droit international. Premier point, la détention administrative, c'est pas simplement arbitraire comme ça à nos yeux qui ne sommes pas spécialistes du droit, mais c'est une violation de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 42 et 78 de la 4e Convention de Genève. Donc c'est lourd comme remarque, n'est-ce pas? Violation de la Déclaration universelle décidément des droits de l'homme. Et violation de la 4e Convention de Genève. Le deuxième point, deuxième violation, c'est la violation de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vous me demandiez, Frédéric, de préciser les choses pour les enfants. J'y viens maintenant à propos de cette CIDE. Cette CIDE qui a été ratifiée d'ailleurs par Israël en 1991, ce qui l'oblige théoriquement à mettre en œuvre la totalité des droits et protections inclus dans ce traité. En fait, il y a violation, puisque on considère qu'en Israël, que les enfants sont majeurs à partir de 16 ans, alors que la majorité pénale est à 18. Un jeune de 16 ou 17 ans purgera les mêmes peines qu'un adulte. Alors la loi, il est vrai, a été récemment modifiée, la majorité est portée à 18 ans, mais elle n'est pas complètement appliquée dans les faits. Par ailleurs, je dois aussi préciser tout ça, c'est un peu lourd, mais c'est nécessaire, me semble-t-il, des enfants mineurs au moment des faits pris en compte par les procédures militaires sont soumis à des parodies de procès durant des années pour permettre leur condamnation dès l'âge de leur majorité pénale dans le droit israélien. Donc c'est assez...
C'est un contournement des procédures, une fois
voilà,
plus.
Voilà. Hein. La deuxième violation de la CIDE, c'est le fait qu'Israël autorise l'incarcération dès l'âge de 12 ans. Ordre militaire numéro 1651. Alors que la CIDE ne le permet qu'à partir de 14 ans. Alors, selon l'UNICEF, les mauvais traitements physiques et psychologiques à l'encontre des jeunes Palestiniens sont répandus, systématiques, institutionnalisés au sein du système de détention militaire israélien.
Et on peut supposer, excusez-moi, on peut supposer que justement ces mauvais traitements, une fois la personne libérée, que ce soit un enfant mineur ou que ce soit un jeune de plus de 18 ans, une fois libéré, on peut supposer que justement ces mauvais traitements le font entrer dans un processus encore plus complet de rejet d'Israël et de poursuite de comment on peut dire de sa révolte en fait hein, de
oui,
la révolte populaire donc
une sorte de haine oui
voilà on s'en
bien sûr
on s'enferme dans ce genre de relation
bien sûr sans compter aussi que il faut évoquer mais j'y reviendrai si vous voulez bien il y a aussi des traumatismes psychologiques qui sont durables au-delà de la libération des enfants en question, quoi. Hein.
Voilà, il faut se référer au travail de Sama Jabri,
qui est une
psychiatre qui a travaillé là-dessus.
Effectivement, c'est une référence nécessaire. Une autre violation du droit international, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça me paraît, pour tout auditeur, objectif, c'est une référence juridique qui est incontournable. La troisième de ces violations, c'est le fait que le droit à la non-discrimination n'est pas respecté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, dans les territoires occupés, qui relèvent de sa gouvernance, Israël viole le principe d'égalité et de non-discrimination. Comment cela ? Eh bien, parce qu'il applique un système juridique différencié entre les enfants israéliens, ceux des colonies, qui sont jugés par des magistrats civils, et les enfants palestiniens, sur le même territoire, qui sont jugés par des militaires n'ayant aucune formation juridique. La quatrième violation, c'est le fait que le droit à une identité n'est pas respecté. Un enfant qui a un parent israélien et l'autre vivant en territoire palestinien occupé ne pourra pas obtenir la nationalité israélienne. Et la réunification familiale est de surcroît interdite. Israël considère que les enfants d'origine palestinienne, en outre résidant à Jérusalem, ont la nationalité jordanienne, alors que ce n'est presque plus le cas. Donc de nombreux enfants, de fait, se retrouvent apatrides, ce qui est contraire au droit à l'égalité garanti par la CIDE. Donc voilà un point encore très, très important, je crois. Cinquième et dernière violation, relative au fait que le droit de l'enfant réfugié n'est pas respecté. Israël applique depuis janvier 2012 la loi sur la prévention de l'infiltration, entre guillemets, qui lui permet de détenir de manière prolongée des enfants qui sont entrés illégalement sur son territoire, puis à les expulser dans leur pays d'origine ou vers un pays tiers, même s'ils y risquent de mauvais traitements. Cela constitue une violation de la Convention sur les réfugiés, dont Israël est, encore une fois, signataire. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, peut-être trop, je ne sais, sur le fait que, voilà, tout ça participe d'une violation du droit international, quel que soit notre avis sur le conflit israélo-palestinien. Les faits sont là. Toujours à propos de ces procédures, ce premier temps là que nous avons évoqué, il faut souligner donc maintenant que les peines qui sont prononcées par ces tribunaux militaires sont des peines qui sont le plus souvent ahurissantes, le mot est faible, sans aucune mesure avec le chef d'inculpation.
Par exemple,
alors je vais vous dire, plus de 500 prisonniers, 10% grosso modo de l'effectif total, un peu plus, purge des peines de condamnation à vie.
Oui, quand même.
Voire des multiples que je ne sais qualifier, ubuesques peut-être, de condamnations à vie. Puisque le record, hein, sur le papier, c'est 67 fois la perpétuité.
Oui, c'est complètement ridicule, oui.
Le ridicule ne tue pas.
Ben, quelques fois, si, en l'occurrence.
Oui, oui, effectivement. 67 fois la perpétuité, mais ça suffit pas parce que dans ce cas précis, il y a plus de 150 ans. Donc,
ça laisse de la marge.
Ça paraît.
Peut-être qu'on peut retrouver ça aux États-Unis, mais.
Oui. Ben, effectivement.
Ou dans quelques autres pays d'ailleurs, mais ça reste ridicule et complètement inconcevable.
Et de nombreuses condamnations sont démesurées, plus de 20 ou 50 ans. 10 ans sont encourus pour jet de pierre sur un véhicule. Alors, il y aurait beaucoup de gilets jaunes en France qui devraient être en prison suivant ce droit. Voire 20 ans pour jet de pierre sur un véhicule en mouvement. Et dans bien des cas, ce sont des enfants palestiniens qui sont condamnés pour ces lancers de projectiles. Et tout ça est accompagné d'amendes hein, qui excèdent généralement les possibilités de la famille. Hein. Donc voilà ce premier temps, cette entrée dans l'enfermement et cette parodie de justice qui l'accompagne.
Alors, ensuite, il y a le second temps de l'incarcération lui-même, des conditions
voilà,
d'incarcération, c'est ça?
C'est ça. Je me proposais d'aborder ce deuxième temps, là, maintenant. Depuis l'arrestation, en fait, hein, parce que je dis un deuxième temps, celui de la pré-justice, mais en fait...
Pour le prisonnier, c'est le même.
Pour le prisonnier, c'est le même, et pour les châtiments, toutes sortes de châtiments que je vais évoquer maintenant, ils commencent dès le premier temps. Mais durant l'exécution de la peine prononcée, il y a toutes sortes de châtiments, donc de violences verbales, d'humiliations, de menaces de mort, de sévices sexuels, y compris sur les enfants, selon Défense for Children International Palestine, référence février 2021, privation de sommeil, entrave par les chaînes des poignets et des pieds, accès limité à l'eau, à la nourriture, aux installations sanitaires, aux médicaments, voire torture. Alors, à propos des tortures, je voudrais signaler que ce sont 80 prisonniers qui sont morts sous 81 très exactement, qui sont morts sous la torture depuis 1967, hein, jusqu'à nos jours. Donc ça fait plus d'une victime par an, en moyenne. À propos de la torture, je voudrais, si vous permettez, citer une nouvelle fois Sfard, hein, qui dit que la torture, je reprends sous mes yeux là sa citation pour ne tromper personne. Sfard nous dit ceci: c'est le crime le plus odieux ayant frappé des milliers, voire des dizaines de milliers de Palestiniens. Hein. Il n'y a pas de torture légale. Page 281. Le droit à ne pas être soumis à la torture est un des rares droits absolus. Et je ne veux pas prolonger sa citation, mais simplement terminer par cette phrase de lui: c'est le chapitre le plus sombre, le plus honteux de l'histoire d'Israël, page 270. Voilà, il y a des Israéliens, beaucoup de nos amis israéliens, qui sont des gens courageux et qui, dans un système judiciaire qui n'a de référence de justice que le nom, se permettent de se battre pour les Palestiniens et pour faire avancer le respect de leurs droits. Il y en a d'autres comme Léa Tsemel que tout le monde, je pense, connaît.
C'est assez important à souligner. Effectivement, il y a des Israéliens dans l'opposition, il y a des Israéliens qui ne sont pas d'accord avec la politique de leur gouvernement. Il ne s'agit pas d'être binaire et de mettre des méchants d'un côté et des bons de l'autre.
Bien sûr, bien sûr.
On est bien d'accord.
Et je me plais d'ailleurs, à, vous l'aurez compris, à citer des références israéliennes, parce que justement, ça doit, pour tous les gens, la majorité en France et aussi en Israël, qui sont des gens qui sont indifférents, parfois pour des raisons légitimes, parce que tout le monde a ses propres soucis, ne s'intéresse pas à cette problématique, eh bien, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des Israéliens eux-mêmes qui viennent lutter aux côtés des prisonniers politiques palestiniens. Alors, je reprends mon propos sur les traitements inhumains. Il y en a un qui est particulièrement scandaleux, hein, qui est la mise à l'isolement, ou pire encore, au secret. Ces mises à l'isolement qui peuvent être prolongées indéfiniment, avec pour justification de cela des définitions très larges de l'atteinte à la sécurité de l'État ou de la prison, qui laisse une liberté considérable aux autorités. Alors, ça, c'est une arme qui, elle, sans faire de bruit, est utilisée pour détruire psychologiquement et physiquement le détenu palestinien.
Alors c'est aussi une arme qui est utilisée dans presque toutes les prisons, mais peut-être accentuée dans les prisons israéliennes.
Alors, je ne peux pas comparer avec ce qui peut se passer dans des pays répressifs comme la Chine ou la Russie ou l'Iran. Je parle en fonction des connaissances qui sont les miennes là sur ce sujet. Et disons que en Israël, ces traitements sont particulièrement inhumains. Hein. Et la preuve en est, c'est que j'ai là sous les yeux le nom d'un détenu, Ibrahim Al-Rahi, qui est mort le 11 avril 1988, après 9 mois consécutifs d'isolement. Voilà. Et à l'heure actuelle, il y en a un autre qui s'appelle Omar Karouat, qui est condamné à la perpétuité, détenu depuis 2002 et qui est à l'isolement depuis 14 mois. Voilà. Donc,
On essaye de plus les faire exister, en fait. On essaye de nier leur existence de fait.
On les plonge dans l'oubli, sauf pour la famille elle-même, hein, qui n'a le plus souvent plus aucune nouvelle. À propos des familles, d'ailleurs, je voudrais citer quelque chose que j'allais peut-être oublier, c'est que l'incarcération, le temps de l'incarcération, il est préjudiciable, le mot est faible, pour les détenus, mais il est aussi préjudiciable pour la famille du détenu. Pourquoi? Eh bien, parce que très souvent, les détenus sont dans des prisons israéliennes. D'ailleurs, ce qui est contraire, j'ai pas eu l'occasion de le dire, au droit international. Hein,
une fois de plus.
Pour une fois de plus, par exemple, sur les 130 enfants qui sont détenus à l'heure actuelle, 131, il y en a 90 qui sont détenus dans des prisons israéliennes. C'est interdit par le droit international. Ils devraient être dans le territoire cisjordanien. Et ça a comme conséquence, j'y reviens, familiale, comme conséquence, donc le fait que la famille doit généralement faire des journées de déplacement pour pouvoir visiter, grâce à l'aide de la Croix-Rouge, le plus international, le plus souvent, visiter son prisonnier. Et parfois s'entendre dire à la porte de la prison que ce n'est pas le jour, qu'il faudra revenir. Bref, des complications extrêmes dans le suivi de l'incarcération du parent, le fils, la femme, etc. Donc, voilà une conséquence qui est importante dans le vécu au quotidien. Une autre, plus excessive encore, c'est le fait que, mais là on revient peut-être au temps d'avant, j'ai oublié ce point, il y a tellement à dire, le fait que très souvent, contrairement au droit international, il y a un principe de punition collective. Je répète, c'est interdit, la punition collective, par le droit international. Une punition collective qui vise à détruire la maison d'un parent du détenu, qui peut être détenu d'ailleurs pour une raison légitime, ou pas, ce qui est encore pire, et on va détruire cette maison, comme ça, hein, par une décision complètement arbitraire, et on met à la rue, des femmes, enfants, comme ça, quelle que soit la saison, et on détruit aussi de cette manière la vie de la communauté familiale. Si nos auditeurs sont intéressés par le principe des destructions de maisons comme punition collective, ils peuvent se référer à un rapport que j'ai pu faire sur le site de l'AFPS. J'insiste pas davantage là-dessus. Dans les traitements encore, je dirais que les prisonniers palestiniens ne peuvent utiliser qu'un ultime recours, c'est la grève de la faim. Quel recours, n'est-ce pas? Souvent de longue durée, au péril de leur vie, d'autant qu'ils sont soumis parfois à l'alimentation forcée en vertu d'une loi israélienne qui a été adoptée en juillet 2015. Cette alimentation forcée, d'ailleurs, il faut le dire, elle s'est heurtée à un refus de l'ordre des médecins israéliens en 2015 et 2017. Disons qu'on n'en attendait pas moins, mais c'est un fait qu'il faut souligner.
Il faut souligner, oui, bien sûr.
Allô?
Oui, oui.
Alors, cette grève de la faim est aussi une arme pour les prisonniers victimes de la détention administrative, et par solidarité, les prisonniers en voie de jugement ou condamnés qui entament fréquemment à leur tour une grève de la faim. Donc voilà pour le temps de l'incarcération. J'ai déjà beaucoup dit peut-être à ce sujet. J'ai parlé de la torture. Hein, cette torture, elle est dénoncée aussi par des ONG israéliennes de défense des droits de l'homme, B'Tselem, à Moked. J'en viens maintenant, si vous voulez bien, au troisième et dernier point sur la fin de l'enfermement. Cette fin, premier point peut-être, c'est parfois la mort. Hein, j'ai souligné tout à l'heure ceux qui sont morts sous la torture. Je voudrais dire à ce propos que les corps des prisonniers qui sont décédés durant cet enfermement ne sont pas remis à leur famille. C'est donc une dimension dramatique supplémentaire pour la famille. Généralement, les corps sont transportés dans ce qu'on appelle pudiquement le cimetière des nombres, hein, puisque sur chaque tombe, il y a un numéro, et pas un nom, ce qui fait que, de toute façon, la famille, quand bien même elle viendrait sur site, ne pourrait s'y retrouver. Ce cimetière des nombres, il y en a un, peut-être y en a-t-il plusieurs, je ne sais pas à ce propos, mais il y en a un près de Jéricho.
Mais c'est aussi une nouvelle façon de nier l'individu et de l'effacer.
C'est exactement cela, vous avez le mot qui convient, effacer cette personne. D'ailleurs, très souvent, ces personnes ne sont même pas considérées comme personnes, puisqu'on les traite comme des chiens, puisque c'est le mot qui est souvent utilisé. Après enfermement, c'est aussi, non seulement un rétablissement psychologique, physique nécessaire, mais c'est aussi très souvent pour les prisonniers qui ont été enfermés jeunes le plus souvent et donc non encore mariés, c'est le souci de trouver une femme pour fonder un foyer. On peut sourire de cela, mais peut-être est-ce tout de même bien compréhensible. Je me permettrai de citer à ce propos un cas qui m'est quelque peu personnel, puisque j'ai parrainé un prisonnier qui a fait 20 ans de prison, qui est sorti en 2019, après ses 20 années. Et quand je l'ai eu, puisque j'ai pu le joindre au téléphone dans sa famille, la première chose qu'il a pu me dire, c'est qu'il souhaitait trouver une femme. Donc, cette préoccupation que je cite, moi qui l'imagine, elle est réelle tête de bien des prisonniers.
C'est aussi une forme de réinsertion, en fait.
Voilà, c'est une forme de stabilisation, en quelque sorte, au sein de la société palestinienne. Voilà. Donc, il y a cette préoccupation-là, et puis il y a aussi, évidemment, la recherche d'un emploi, parce qu'on ne va pas vivre que de ce nouvel amour et d'eau fraîche.
D'autant plus que la question de l'eau en Palestine...
D'autant plus que l'eau fraîche manque.
Oui, voilà.
Oui, on va faire
un peu d'humour
cynique, là, à ce propos. Donc, recherche d'un emploi. Alors, il est vrai que l'autorité palestinienne, décriée justement à bien des égards, offre parfois des emplois préférentiellement à ceux qui sortent après une longue durée d'incarcération, mon prisonnier étant lui-même aujourd'hui policier de l'autorité palestinienne. J'ai appris ça en Palestine lors de mon voyage tout récent. Donc, il y a un après, sachant aussi que cet après peut être très court et être suivi d'un réenfermement très rapide. Les Israéliens sont coutumiers du fait. C'est-à-dire qu'on libère quelqu'un et qu'on le réinsère sous un prétexte nouveau, ou pas nouveau d'ailleurs, quelque temps plus tard.
C'est le cas de notre compatriote franco-palestinien Salah Hamouri.
C'est le cas Salah Hamouri, que je citais tout à l'heure, effectivement, que les autorités israéliennes voudraient bien voir partir définitivement de Jérusalem, où il habite très normalement, puisqu'il a un père qui est jérusalémite.
Et qui voudrait pouvoir vivre avec sa famille.
Il faut que nos auditeurs sachent que notre compatriote, hein, qui est père de deux enfants, ne peut pas recevoir la visite de son épouse et de ses enfants en Palestine, et encore moins en ce moment, puisque, comme je l'ai dit, il est à nouveau incarcéré pour 3 mois jusqu'en septembre prochain, et puis en septembre on verra. D'autant que, je le répète, nos autorités françaises
sont assez silencieuses, de manière visible,
n'apparaissent pas beaucoup, quoi. Hein. Donc, on espère que le ministère des Affaires étrangères travaille sur cette question, mais on n'est pas très rassuré quant à son efficacité.
Mais je voudrais qu'on s'arrête deux petites minutes sur la réinsertion des enfants, justement, alors qu'ils soient mineurs ou tout jeune majeur, la réinsertion est peut-être encore plus compliquée que pour un adulte ou de nature différente, peut-être.
Mais je pense qu'elle est compliquée et elle est compliquée pour une raison qu'on avait rapidement abordée précédemment. C'est je pense que toutes choses égales par ailleurs, si on peut dire ainsi, l'impact psychologique sur les enfants est plus potentiellement plus grande, quoi, hein. Donc il y a un suivi qui doit être fait, mais très souvent les moyens au niveau d'un suivi psychologique ou psychiatrique font défaut tout de même en Cisjordanie, hein, comme ils peuvent faire défaut à Gaza pour tous les enfants qui subissent les bombardements. Donc je pense qu'il y a cette dimension là et un autre aspect qui peut être souligné peut-être les concernant, c'est que très souvent mais ça aussi on l'avait dit rapidement, la haine vis-à-vis des forces de police, de l'armée israélienne, la haine de ces enfants n'a pu que grandir au vu de ce qu'ils ont pu subir.
Voilà.
Donc Israël traite très mal de ce problème, peut-on penser.
Et la réinsertion, ça veut dire le projet professionnel, les études et tout ce qui a été saccagé par l'incarcération.
Alors dans les jeunes, peut-être pas enfants, mais dans les jeunes adultes, je n'ai pas eu l'occasion de le citer, je le fais maintenant, il y a le fait que très souvent sont ciblés aussi les jeunes études, les universités palestiniennes, hein, que ce soit Birzeit, Naplouse, Bethléem ou autre. Pourquoi ? Ben parce qu'on veut casser les forces vives. La jeunesse étudiantine, c'est quand même celle qui porte l'avenir du pays, d'une certaine manière, et donc elle est particulièrement ciblée. Beaucoup de ces étudiants sont en détention administrative, et là aussi, on fait de ces gens-là des gens qui sont bien souvent tournés définitivement contre toute entente possible avec l'État israélien, et cela peut se comprendre. Voilà, alors, en conclusion, peut-être, je ne sais pas si il est l'heure ou pas.
Effectivement,
mais sinon,
cette émission arrive à son terme, donc une conclusion s'impose.
Voilà, juste deux mots, hein, pour rappeler donc le fait que de tous ces prisonniers qui sont morts en prison, hein, du fait de la torture, je l'ai dit, mais aussi de négligence médicale, hein, plus d'une cinquantaine à ce titre. Une vie individuelle qui est traumatisée, une vie familiale qui est brisée, une société palestinienne qui est harcelée, et puis, dernier point, j'y reviens, une violation systématique du droit international, avec une volonté délibérée de casser la résistance du peuple palestinien et de l'obliger à partir.
Alors,
d'ailleurs, les choses ont été dites, hein, depuis longtemps par des gens comme Moshe Dayan, hein, qui avait dit à propos des réfugiés qu'ils pouvaient bien continuer à vivre comme des chiens. Hein, j'avais cité cette expression précédemment.
Mm-hmm.
Et puis on retrouve tout ça bien décrit, ces aspects que je viens de citer, dans un dernier auteur que je voudrais mettre en avant et qui est très méconnu du public. Or, c'est pour moi peut-être l'auteur du plus bel ouvrage qui soit, qui malheureusement n'est plus édité, mais qui peut se retrouver d'occasion sur différents sites. Je veux citer donc Edith Zertal, hein, c'est une collègue universitaire francophone, hein, qui est aujourd'hui âgée, qui ne sort plus d'Israël, qui habite près de Tel Aviv. Aviv et qui a écrit un ouvrage sur la mort et l'État, hein, où elle parle de tout ce que le principe de la Shoah permet, entre guillemets, à Israël aujourd'hui. Donc c'est un réquisitoire très très sévère. Et elle a aussi fait un livre qui s'appelle « Les seigneurs de la terre » sur la colonisation israélienne. Donc voilà, avec Sfard, avec Ilan Pappé, ce sont des auteurs israéliens vraiment qu'il faut avoir lus.
Alors, ce que je...
Allô ?
Oui, oui. Je constate aussi que s'il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui peut concerner d'autres prisons dans le monde, il y a quand même un processus à travers l'incarcération, l'inculpation administrative et la justice militaire, un harcèlement de la société palestinienne, vous l'avez bien soulevé, et qui vise à casser la résistance à la colonisation. Donc ça va au-delà de la simple incarcération d'un individu. C'est vraiment un processus qui s'applique. Voilà.
Oui, oui, c'est un processus, c'est un élément d'un processus politique.
Exactement.
Colonial, faut appeler les choses par leur nom, et comme je l'ai dit, qui vise à casser cette résistance du peuple palestinien. Alors on a connu ça du temps d'autres guerres ou conflits coloniaux, hein, plutôt appeler ça conflit. En Algérie, les forces françaises ont pu aussi commettre des actes très répréhensibles, hein, et donc c'est les mêmes causes produisent en quelque sorte les mêmes effets.
Tout à fait. Alors, pour terminer, nous vous invitons à aller visiter le site de la FPS, france-palestine.org, sur lequel vous trouverez non seulement l'information sur la situation des prisonnières et des prisonniers, mais également toute l'actualité sur la situation en Palestine. Et alors, je dis bien france-palestine.org, parce que AFPS, vous pouvez aussi vous retrouver sur l'Association française des premiers secours. Mais Dieu sait si le peuple palestinien a besoin de secours. une nouvelle fois, on se permet un peu d'humour dans ce paysage très noir. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site concertina-rencontre@.fr, à l'onglet « Ici l'ombre ». En tout cas, merci beaucoup Michel Mieton.
Oui.
Pour votre clarté et tout ce que vous nous avez appris. Les références que vous avez citées, on les indiquera également sur le site de concertina-lesrencontres.fr à l'onglet Ici l'ombre, de façon à permettre à toutes les personnes qui ont écouté l'émission ou qui l'écouteront sur Internet de pouvoir retrouver toutes ces références dont vous avez parlé. Merci beaucoup.
Très bien.
Au
Merci
revoir.
Frédéric, au revoir, à bientôt.
Et puis au revoir à tous et à toutes.
Vous êtes sur Ici l'ombre, la radio de Concertina, les rencontres estivales sur les enfermements. Vous venez d'écouter une émission produite par Radio d'ici.